Pour bien guider sa vie en homme et en femme libre, il est important de bien distinguer ce qu'on ressent, nos émotions, nos sentiments, de les distinguer de notre liberté. Par exemple, si je ressens un sentiment de colère, eh bien, librement, je vais soit l'exprimer ou soit peut-être le garder pour moi-même, car ça ne va pas aider les relations avec les autres. Je peux l'exprimer si la colère est maîtrisée et pour une bonne cause, mais si nous voyons que nous n'allons pas maîtriser ce sentiment, il vaut mieux le garder pour soi et pas l'exprimer pour l'instant. Eh bien, dans la foi, il est important de voir la place des émotions, des sentiments. Nous voyons dans cette première lecture que le peuple d'Israël pleure alors qu'il est appelé à un sentiment de joie. Alors dans ce matin, dans cette homélie, je voudrais voir avec vous comment la foi dépasse la simple émotion, puis dans un second temps, les cas où l'émotion, le sentiment est un obstacle à la foi, et enfin, les cas où l'émotion, les sentiments sont une aide pour notre foi. La foi n'est pas réduite aux sentiments, aux émotions. Il y a plus d'un siècle, existait, et encore maintenant parfois, existait une hérésie qu'on appelait le modernisme, qui réduisait la foi à un simple sentiment personnel. Un sentiment qui ne correspondait pas à la vérité historique, qui n'était pas une certitude, mais simplement ce que je ressens. Cela n'est pas la réalité de la foi. La réalité de la foi est beaucoup plus que ce que je ressens. Elle est vraie. Elle correspond au réel. Nous l'avons entendu au début de cet évangile, que Saint Luc ne dit pas à Théophile « Voilà, qu'est-ce que tu ressens? Quelle est ta foi ressentie ?» Non, il dit « J'ai décidé, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. » La foi s'appuie sur la vérité, une vérité qui nous est transmise. Et cette vérité a des preuves, et je vous invite à lire ce très beau livre « Dieu, la science et l'épreuve » qui fait un grand succès en ce moment. Et c'est un moyen pour nous de solidifier notre foi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des raisons de croire. La foi est un don de Dieu, et en même temps elle est accompagnée de raisons de croire. Juste précise, à travers toutes les grandes qualités de ce livre, il y a juste un petit passage qui mériterait d'être plus approfondi sur l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament, comme le Nouveau, eh bien, a un souci d'historicité, et les miracles sont aussi vrais chez Israël que maintenant, que dans l'histoire de l'Église, que dans le Nouveau Testament. Mais à part ça, c'est un livre vraiment passionnant et qui fait du bien pour notre foi. Il y a des cas où l'émotion est un obstacle pour la foi. C'est que comme dans la vie quotidienne, dans le cas où on se base simplement sur ce qu'on ressent ou pas. Alors, un exemple. Cette première lecture, le peuple pleure dans un jour consacré à Dieu. Et ce n'était pas le moment de pleurer, d'avoir ce sentiment de culpabilité. Esdras dit « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Le sentiment de culpabilité peut être une aide pour faire la volonté de Dieu, pour la conversion, pour la vie morale, mais parfois il peut être erroné, comme le voyant d'une voiture. Vous savez que sur les voitures récentes, il y a tellement d'électronique qu'il s'avère qu'un voyant de panne peut s'allumer, alors que simplement le senseur qui a un problème, il n'y a pas de panne. Eh bien, c'est un peu pareil avec notre sentiment de culpabilité. Parfois, on se sent coupable et on ne l'est pas. Ça s'appelle le scrupule. Par exemple, je me trompe dans le prénom de quelqu'un et puis toute la matinée, je m'inquiète, mais la personne est blessée, tout ça, alors que la personne n'a peut-être pas remarqué. Dans la vie chrétienne, par exemple, pendant la messe, je me dis, mais est-ce que j'ai fait mon signe de croix en entrant dans l'église? On ne sait plus trop. Et ça occupe tout notre esprit pendant toute la messe. Et on oublie de prier. Ça s'appelle le scrupule. Ce n'est pas rationnel, mais c'est un sentiment qui envahit notre raison. Donc ça, c'est un sentiment erroné. Il y a aussi l'inverse. On est coupable, mais on n'a pas de sentiment de culpabilité. Par exemple, on a insulté quelqu'un, la personne a pleuré, mais on ne se sent pas coupable. On dit « Oh, c'est de sa faute, c'est bien fait pour elle. » Voilà. Ou dans la vie chrétienne, on communie, mais on sait qu'on aurait eu besoin de se confesser avant. Mais « Oh, c'est pas grave, on se sent pas coupable. On va recevoir Jésus, malgré le fait que cela l'offense. » Ainsi, notre sentiment de culpabilité n'est pas le seul moyen pour discerner l'état de notre âme. Il faut aussi réfléchir, faire des actes d'intelligence et demander l'aide de Dieu pour savoir si ce sentiment est juste ou pas. Un autre domaine où nous pouvons aussi être trompés par nos sentiments, ou plutôt par nos manques de sentiments, c'est que dans la vie chrétienne, il se peut que nous soyons dans un temps de sécheresse, c'est-à-dire on prie régulièrement, on va à la messe le dimanche, on a une vie chrétienne, mais on ne sent pas de ferveur, on ne sent rien. Alors le danger, c'est de penser que ce sentiment reflète l'état de l'âme. Alors non, il ne faut pas se décourager, parce que l'état de notre âme n'est pas automatiquement ce qu'on ressent. Mère Teresa, qui est une grande sainte, qui avait ce beau sourire et cet amour de Dieu et pour les pauvres, pendant 50 ans à peu près, elle n'avait pas de sentiment de ferveur, elle ne ressentait rien. Et pourtant, son âme étant dans la lumière de Dieu. Voyez, donc si nous sommes dans un temps de sécheresse, ne nous décourageons pas. Le Seigneur voit notre fidélité et il nous en est plein de gratitude. À l'inverse, je connais une paroisse expérimentale qui n'est pas du tout dans notre diocèse, mais à des centaines de kilomètres d'ici, où le choix a été fait de vibrer que sur l'émotion, que ce soit le seul mode de relation à Dieu, etc., dans la liturgie. Et c'est un risque, parce qu'on peut se tromper. On peut, par exemple, penser que notre émotion, eh bien, est l'appel de Dieu, alors que c'est simplement notre émotion. On peut être dans une vie complètement immorale et se sentir en paix, pour un temps du moins, et penser que, comme on est en paix, eh bien, notre vie est selon l'Évangile. Alors non, là aussi, c'est confondre la foi et l'émotion. Toutefois, il y a des cas où l'émotion, les sentiments sont une aide pour la foi. L'émotion n'est pas mauvaise en soi, c'est un don de Dieu. Le tout, c'est qu'elle soit bien intégrée dans notre vie. Par exemple, les émotions peuvent être une étape pour grandir dans la foi. Une belle musique, une belle église peuvent nous aider à nous ouvrir à la présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a une attention dans nos paroisses à la beauté des chants, car c'est au service de notre prière. On peut penser aussi dans la vie des saints, notamment Sainte Thérèse d'Avila, qui était dans un monastère un peu mondain, même plus que mondain. Elle passait beaucoup de temps au parloir et en fait, la vie de prière n'était pas prioritaire. Un jour, elle était dans un couloir et il y avait une statue de Jésus flagellée, qui vivait sa passion. Elle a vu la statue, elle a eu une émotion, mais ça a été pour elle le point de départ d'une conversion. Une conversion pour une carmélite, on pourrait dire c'est étonnant. Eh bien oui, elle le dit, c'est le point de départ de sa conversion, et non seulement de sa conversion, mais de sa réforme du Carmel, pour que la vie des Carmels soit plus fervente. Eh bien c'est par l'émotion d'une statue, accompagnée de la grâce, que Sainte Thérèse d'Avila a une vie transformée. On peut penser aussi à la statue de Jésus, de l'enfant Jésus, roi d'amour, promue par Mère Marie-Vonne de Malétroit. Et quand nous voyons cette statue, Jésus enfant couronné qui montre son cœur, bien effectivement nous avons une émotion de tendresse et on n'a pas envie de l'offenser en péchant. Donc l'émotion est appelée à être au service de notre foi. Non seulement l'émotion peut préparer à la foi, mais elle peut aussi être le fruit de la foi. C'est ce qui se passe dans cette première lecture où Esdras, le prêtre Esdras, dit au peuple d'Israël « Ce jour est consacré à notre Dieu. » Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. La joie du Seigneur est votre rempart. Vous savez, en ce temps de nouvelle année, parfois on n'a peut-être pas envie de dire bonne année aux autres. Parce qu'on se trouve qu'il y a pas mal de problèmes, en fait. Et l'émotion n'est pas toujours à la joie. Eh bien, pourtant, le Seigneur peut nous donner une joie. Peut-être pas une joie exubérante, mais une joie profonde qui ne dépend pas des conditions extérieures. Et vous savez, il y a un rapport entre le désir et la joie. La joie, c'est le fruit du désir. Par exemple, Nous attendons des amis qui viennent nous rendre visite. Nous avons le désir de les voir. Ils arrivent et nous sommes dans la joie. Eh bien, en fond de chaque personne humaine, même si elle ne le sait pas, il y a un désir naturel de Dieu. Et ce désir de Dieu, quand il est accompli, quand nous rencontrons Dieu, quand nous avons une vie de relation avec Dieu, le fruit, c'est la joie profonde. Eh bien, que la Vierge Marie, en cette nouvelle année, nous permette d'avoir cette bénédiction de Dieu, que nous avons entendu dans l'Évangile, le Seigneur nous annonce une année favorable. Cette année sera favorable. Plus nous approchons de Dieu, plus nous serons dans la joie. Amen.